Et c'est vrai que comme toutes les fins de semaine, nous ouvrons notre club des têtes au carré avec plusieurs sujets présents dans l'actualité scientifique. Il sera question aujourd'hui d'une mobilisation autour du mélanome pendant la fête de la musique. Nous irons au centre de la Terre pour une découverte autour de la chimie de notre planète. Et puis on s'intéressera aux Space Girls, des femmes de plusieurs générations qui s'engagent pour l'espace. Et vous pouvez bien sûr nous rejoindre avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, de la pâte à tartiner qui fait réagir jusque dans les pays mis à huile, Axel Villard.
Oui, bonjour Mathieu. Depuis lundi, la presse et les réseaux sociaux s'amusent de la sortie de Ségolène Royal, invitant à ne plus manger de Nutella et surtout de ses excuses immédiates. Ensuite, l'huile de palme durable est-elle une réalité aujourd'hui? On en parle dans un instant avec vos questions sur Twitter.
Violaine Ballet aux commandes de notre club qui a été préparé par Anne-Cécile Perrin et Thomas Delosier.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Dans notre club, donc, un sujet sur le mélanome des femmes dans l'espace et la chimie du noyau terrestre. Fatoumata Kébé, Benoît Delplanque et Frédéric Moynier, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Frédéric Moynier, vous pourriez être un vrai personnage de roman de Jules Verne, puisque grâce à votre découverte et celle de vos collègues, vous êtes allé éclairer le centre de la Terre. Vous avez en effet révélé la présence de soufre dans le noyau terrestre. Le cœur de notre planète, ça reste toujours un endroit extrêmement difficile à explorer.
C'est difficile, c'est 3000 km sous nos pieds. On atteint 10 km avec les forages les plus profonds, donc vous pouvez imaginer, c'est comme imaginer d'aller à Copenhague sans sortir du périph.
Oui, enfin sauf qu'on va très très loin dans l'espace, et techniquement c'est beaucoup plus compliqué d'aller au centre de la Terre. Hein.
C'est beaucoup plus difficile, oui.
Ouais. De la Terre à la Lune, on pourrait poursuivre avec Jules Verne pour parler de cette exposition Space Girls, Space Woman, qui démarre donc au Musée des Arts et Métiers sur les grilles du jardin de l'Observatoire de Paris, des femmes qui s'engagent pour l'espace. C'est votre cas, Fatoumata Kébé. Vous vous présentez, paraît-il, comme femme de ménage de l'espace. Ce métier consiste en quoi alors exactement?
En fait, femme de ménage, c'était une petite blague par rapport à ma maman. Mm-hmm. Mais en gros, je dirais plutôt gardienne de l'environnement spatial.
Ouais.
Parce que je pense qu'il faut être plus strict concernant les exploitants de satellites et gouvernements qui, pour l'instant, ne mettent pas en place des politiques pour préserver l'environnement spatial.
Ouais, vous travaillez sur les débris spatiaux en particulier?
Exactement.
Ouais, d'où cette analogie avec justement le ménage de l'espace.
Exactement.
Benoît Delplanque, vous êtes responsable de cette exposition Space Girls. L'idée donc, c'est avec ces portraits de vraiment montrer l'espace au féminin. Hein.
Voilà, tout à fait. L'idée, c'était de dépasser la vision technique qu'on pouvait avoir de l'espace et des images qu'on pouvait en ressortir des grands programmes et de montrer les femmes qui bossent derrière sur les programmes spatiaux, les jeunes filles qui sont passionnées par l'espace dès leur plus jeune âge,
ouais,
et de montrer toutes ces vocations qui naissent et qui, comme Fatoumata, s'engagent pour l'espace et pour la société, ouais, finalement.
Et elles sont nombreuses dans le monde entier.
Dans le monde entier.
C'est l'objet de cette exposition. Et puis, dans la première partie de ce club, je recevrai le médecin, dermatologue et chercheur Caroline Robert qui viendra nous parler d'une opération pendant la fête de la musique autour du mélanome. Voilà donc pour les sujets de ce club des têtes au carré. La polémique Nutella est-elle retombée un peu trop vite? C'est à la une de la science aujourd'hui. Écoutons d'abord Ségolène Royal, qui était lundi soir l'invité de Petit Journal sur Canal+.
Il faut replanter massivement des arbres, parce qu'il y a eu une élimination, une déforestation massive qui entraîne aussi du réchauffement climatique. Il faut arrêter de manger du Nutella, parce que c'est l'huile de palme qui a remplacé les arbres. Et donc, il y a eu des dégâts considérables.
Vous pouvez faire couler toute une boîte en disant qu'il ne faut pas manger de Nutella.
Il faut qu'ils utilisent d'autres matières premières.
Et le surlendemain, la ministre de l'écologie présentait ses plus plates excuses aux fabricants justement de pâtes à tartiner italiens, saluant les efforts menés pour verdir la marque. Nutella et huile de palme, une mini polémique pour un grand sujet. Et pour en parler, nous recevons une primatologue que cette affaire a beaucoup agacé. Bonjour Sabrina Krief.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle et à vos côtés Serge Bahuchet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ethnobiologiste et tous les deux commissaires de l'expo sur la piste des grands singes qui est à voir en ce moment au muséum. Dans cette exposition justement, on peut voir un grand mur qui présente tous les produits de consommation courante qui détruisent le plus les grandes forêts tropicales. Est-ce que vous allez retirer le Nutella de votre mur de la honte, Serge Bahuchet?
Nous avons mis un pot de pâte à tartiner à l'huile de palme qui, ouais, est anonyme. Donc, qui voudrait y reconnaître ce qu'il souhaite le trouvera.
Ouais.
Le mur fait à peu près 50 mètres carrés, il y a 300 produits, 400 produits,
oui,
de toutes sortes de choses qui sont dérivées du pétrole, qui sont dérivées de tout un tas de choses que du bois, évidemment, toutes choses que nous utilisons quotidiennement. Le but de ce mur, qui s'accompagne d'une suite que je vais décrire, était d'attirer l'attention sur les dangers qui touchent à la déforestation et par conséquent aux grands singes, puisque le sujet de l'exposition, c'est les grands singes. Mmh. Donc on a présenté les objets que nous tous utilisons et pour attirer l'attention du visiteur sur ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir une action bénéfique ou moins maléfique sur la forêt. Donc au dos du mur, il y a des solutions. Parmi les solutions, et notre principal message, c'est de dire aux visiteurs, faites attention à ce que vous faites et réfléchissez.
Pourquoi vous êtes agacée, Sabrina Krief, par l'attitude de la ministre de l'écologie, Ségolène Royal?
C'est pas forcément l'attitude de la ministre, c'est plus le fait que la polémique qui a été lancée est retombée assez rapidement, alors qu'il y a matière à débattre, puisqu'effectivement...
Il y a eu un changement de cap quand même de la ministre, très clair.
Oui, sous la pression de la marque, en fait, qui justifie son usage d'huile de palme par le fait qu'elle serait certifiée durable. Mmh. Alors certes, il y a une certification RSPO, qui est donc une table ronde pour l'huile de palme, et qui se veut meilleure pour la préservation de l'environnement, mais on est bien loin de préserver les forêts dans lesquelles vivent les grands singes. Donc pour nous, c'est très important de tirer la sonnette d'alarme et de dire, attention, il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire.
Et de poursuivre le boycott de la pâte à tartiner.
Alors, en fait, pour nous, c'est important de garder la pression et la pâte à tartiner en est un des symboles. Mmh. Il faut savoir que pour avoir cette huile de palme, on rase des forêts entières et que même quand elle est dite durable, pour l'instant, le label n'est pas suffisant. On utilise encore des tourbières, des forêts secondaires. Et par exemple, moi, je travaille en Ouganda dans une forêt en régénération où on trouve la plus forte densité de chimpanzés connue au monde. Donc, ces forêts en régénération, il est urgent de les protéger.
Et les labels autorisent de défricher ces forêts en régénération?
Le seul label qui existe aujourd'hui, qui est le label RSPO, est déjà difficile à comprendre puisqu'il y a différents grades de préservation. Mais même le label le RSPO 100% ségrégué qu'utilise donc la pâte à tartiner
en question,
autorise de couper les tourbières, de couper les forêts secondaires pour planter des monocultures qui donc font qu'on passe par exemple de 800 espèces d'arbres dans une forêt tropicale à une seule sur des centaines de milliers d'hectares, qu'on perd 90% de la biodiversité et 100% des grands singes.
Il est aussi question des petits producteurs. Est-ce que ces labels respectent les exploitants locaux?
Ces labels disent qu'il faut prêter attention aux exploitants locaux, mais la réalité c'est que c'est quand même des grandes monocultures industrielles. Donc il y a effectivement des ouvriers agricoles qui gagnent bien leur vie avec, et effectivement il y a eu un saut économique important pour les paysans locaux, mais ces paysans locaux ne cessent d'être autoproducteurs, ne sont plus des petits producteurs qui leur permettraient d'abord de s'approvisionner eux-mêmes, d'approvisionner le marché local, et deviennent des employés de sociétés international.
Alors, il y a quand même des progrès qui sont faits et les marques, les industriels essayent d'aller plus loin que ce label RSPO. Il y a une alliance française pour une huile de palme durable qui est en cours. Mm-hmm. Cependant, ce sont des intentions qui ne sont pas validées par des vérifications de ces intentions qui sont émises par les industriels. Et donc, même les ONG, en fait, sont prises dans ce jeu puisqu'elles sont là pour aider les industriels et ne se présentent pas en fait comme des arbitres forcément très libres.
On l'a vu avec Greenpeace justement, l'association qui est venue au secours de Nutella. Comment est-ce que vous expliquez ce choix, Serge Bahuchet?
Je suppose que leur souhait est de profiter, de pousser à améliorer les processus en marche. Je pense qu'ils ont en tête que c'est plus facile d'accompagner le mouvement d'industriels qui vont dans une certaine bonne direction plutôt que de s'opposer frontalement et de décrier tout ce qu'ils peuvent faire.
Il y a urgence aussi parce qu'aujourd'hui on est conscient de ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est, mais il n'y a plus de forêts à exploiter. Et voilà, donc aujourd'hui les grandes monocultures vont s'implanter en Afrique. Donc il est vraiment très important d'être vigilant et de s'assurer qu'il va y avoir une planification et que dès le départ on puisse essayer d'améliorer les choses et donc d'utiliser des zones qui sont déjà défricher, d'essayer de faire de l'agroforesterie par exemple, et puis aussi peut-être de rééquilibrer le marché. Ségolène Royal parlait de changer les composants qu'il y a dans la pâte à tartiner. Peut-être qu'il y a des huiles végétales qui peuvent être utilisées, qui sont produites en Europe. Donc plutôt que d'aller chercher de l'huile de palme produite en Asie du Sud-Est ou en Afrique, repenser à ces huiles qui aujourd'hui vont vers les biocarburants et qui avant étaient utilisées dans l'industrie alimentaire, comme par exemple le colza ou le tournesol. Bien évidemment pas le soja, qui est aussi consommatrice de forêts et utilisatrice de pesticides. Il faut aussi savoir que le label RSPO autorise l'utilisation de pesticides, par exemple de paraquat, qui est un pesticide très toxique et qui est complètement interdit en Europe.
Axel.
Serge Bahuchet, comment faire pour aller plus loin que ce que font les labels? Est-ce qu'il est possible de produire avec des palmiers à huile sans avoir d'impact sur les écosystèmes?
On peut travailler en produisant par des mosaïques de cultures, c'est-à-dire de mélanger des taches de forêt, des petites parcelles agricoles de monoculture de palmiers, plutôt que des grands déboisements à blanc, ce qui s'est fait très massivement sur Bornéo essentiellement. Donc quand on voit les photos aériennes, c'est spectaculaire. Donc de travailler plutôt sur des mosaïques, de travailler sur des corridors qui permettent aux animaux de se déplacer d'une tache à l'autre, ce qui n'est pas possible sur les grands espaces. Mmh. Et notre, ce que disait Sabrina est important pour nous et pour l'ensemble des écologues d'ailleurs, c'est que à partir du fait que de ce qui s'est passé en Indonésie, en Asie du Sud-Est, de ne pas répliquer la même chose en Afrique.
Et dans ces solutions, les singes ont leur place, Sabrina?
Oui, ils ont leur place. En fait, justement, si des corridors sont mis en place, si les forêts secondaires en régénération sont préservées, il y a possibilité de survie. Si on utilise le même modèle que ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est, dans 10 ans, et si on attend que des nouveaux labels soient mis en place avec les délais que proposent les industriels, d'ici 10 ans, il n'y aura plus de grands singes.
Donc vous nous dites finalement, attention au message et à la communication de l'industrie agroalimentaire, de Nutella en particulier, parce qu'il y a de belles promesses en ce moment, on veut arriver avec une image très verte, et en réalité, on en est loin, hein, c'est ça?
On en est encore loin, et surtout, ces promesses, il faut essayer de les tenir dans des délais qui ne soient pas des délais trop longs, donc mettre en route les choses le plus rapidement possible et garder la vigilance.
C'est Nutella qui sort gagnant de cette polémique cette semaine, finalement, Serge Bahuchet?
Non, je pense que c'est important de poser le problème et que chacun puisse en prendre connaissance et de se faire son opinion également. Mmh. Il y a des excellents travaux, des livres, des articles qui discutent du problème de l'huile de palme qui a été bénéfique pour l'économie locale, ça on ne peut pas le nier. Mmh. Donc il est important de prendre en compte tous les paramètres.
Bon, et puis pour information, il y a également ce matin dans les colonnes du Figaro cette lettre ouverte à la ministre de l'écologie d'un ingénieur qui travaille pour ce fameux label RSPO. Vous êtes aussi assez énervé par ce texte, hein, je crois. Vous allez lui répondre dans Libération, Sabrina?
Pour l'instant, on a prévu éventuellement d'écrire une tribune, effectivement, en réponse à certains de ses arguments qui disent que certes, les rendements de l'huile de palme sont plus importants, que c'est bon pour la santé et qu'il se fait l'avocat des petits producteurs, mais ces petits planteurs sont parfois expropriés de leur terrain et aussi sont dans un engrenage qui fait qu'ils n'arrivent pas à se défaire des grands industriels.
Bon, dialogue via la presse donc dans les jours qui viennent et même peut-être ce week-end. Merci beaucoup à tous les deux. En attendant, l'exposition sur la piste des grands singes est toujours au muséum et c'est même jusqu'au mois de mars prochain. Merci beaucoup à tous les deux. Axel, avant de se quitter, de se souhaiter un bon week-end, on a des cadeaux pour les auditeurs avec de quoi s'amuser pendant l'été.
Oui, vous avez une semaine pour gagner les deux cahiers quiz La Tête au Carré qui viennent de sortir en kiosque en partenariat avec le journal Le Monde. 300 questions scientifiques avec un cahier pour les adultes, un pour les juniors. Et donc c'est l'objet d'un concours qu'on lance sur la page Facebook et le compte Twitter de l'émission. Il suffit d'envoyer un dessin ou une photo originale avec le thème La Tête au Carré. Si vous êtes parmi les 50 premiers, on vous envoie les quiz en retour.
Voilà, donc c'est très large le thème. Hein. C'est très simple. Autour de l'idée de La Tête au Carré, tous les dessins seront visibles sur la page de l'émission. Vous pouvez y aller d'ailleurs pour voir tout le règlement. Vous avez une semaine, donc les 50 premiers. Soyez les plus rapides, Facebook et Twitter dès ce week-end. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, le mathématicien français de génie Alexandre Grothendieck offre une seconde vie. 20 000 feuillets manuscrits datant des années 70 vont être numérisés par l'Université de Montpellier et mis à disposition des mathématiciens. Mort l'an dernier, le chercheur s'était retiré de la communauté scientifique à la fin des années 60. Il a produit de son vivant, plus de 50 000 pages, toutes conservées par son ancien élève Jean Magloire. La communauté des mathématiciens se dit très heureuse de pouvoir enfin jeter un œil sur ses travaux inédits. Des dents vieilles de 400 000 ans nous révèlent les étonnantes habitudes de nos ancêtres en analysant les résidus microscopiques conservés sur des molaires fossilisés trouvés dans une grotte près de Tel Aviv. Les chercheurs israéliens ont découvert que nos ancêtres, donc il y a 400 000 ans, faisaient du feu en intérieur, mangeaient viande et légumes et se brossaient les dents avec des plantes. La découverte de dents aussi bien conservées est très rare. La grotte enclavée a agi comme une sorte de caisson hermétique. Et puis pour finir, pour la première fois, des biologistes moléculaires ont filmé la mort d'un globule blanc humain. La vidéo a permis à cette équipe australienne d'en savoir plus sur les derniers moments de ces globules. Ils ont découvert qu'en se décomposant, la cellule immunitaire éjecte des petites capsules chargées de messagers chimiques afin de prévenir les autres globules blancs de la présence à proximité d'un agent pathogène. Les scientifiques essaient maintenant d'en savoir plus sur ce mécanisme de communication intercellulaire. Et là aussi, vous avez la vidéo de cette mort cellulaire sur la page Facebook de la Tête au Carré. Le club dans un instant. Yeah. Solemnly Police sur France Inter.
Salut.
La tech. Le club.
Open bar toute la nuit, ambiance de folie, toute sortie définitive.
Sur France Inter.
Se laisse réfléchir.
Et dans le club des Têtes au Carré cet après-midi, des femmes dans l'espace, du soufre dans le noyau terrestre, et puis la fête de la musique qui soutient la prévention autour du mélanome. On commence justement avec cet entretien que j'ai eu cette semaine avec Caroline Robert. Elle est médecin dermatologue, chef du service de dermatologie à l'Institut Gustave Roussy. Et donc, pour la première fois cette année, la fête de la musique s'associe à une grande cause en choisissant l'Institut Gustave Roussy. 20 heures de musique, d'informations non-stop en direct de l'Olympia et sur Radio France. Et Caroline Robert m'expliquait quel était l'enjeu d'abord de cette journée autour de la campagne Ensemble contre le mélanome.
C'est un collectif qu'on a monté il y a quelques années avec Jean-Pierre Babel. Jean-Pierre Babel qui malheureusement a perdu sa fille d'un mélanome. Et on s'est rencontrés il y a 5 ans et c'était tout récent. Et quelques années après, il m'a dit voilà, maintenant ça va mieux et je vais vous aider. Et il met énormément d'énergie pour nous aider dans la lutte contre le mélanome à plusieurs niveaux. Chercher de l'argent pour la recherche. Et la recherche, en ce moment, ça marche. C'est pas toujours le cas.
C'est-à-dire qu'il y a des pistes thérapeutiques importantes.
Et oui, non seulement des pistes, mais on a déjà des traitements sur le marché, des nouveaux traitements depuis 4-5 ans. On a plusieurs nouveaux médicaments qui marchent. Qui ne marchent pas assez, hein, on peut en parler en détail, mais qui font une différence par rapport à ce qu'on avait avant. Et avant, ça veut dire depuis les 50 dernières années, où ça piétinait. Et donc, Jean-Pierre se mobilise énormément pour ça. On fait aussi de l'information. On essaye de faire passer des messages de prévention. Bon, les dermatologues font beaucoup d'efforts. Il y a la journée de dépistage, vous savez, chaque année en mai par le syndicat des dermatologues. Mais c'est vrai qu'on a l'impression quelquefois que peut-être il faut le dire d'une autre façon. Pour que ça rentre par d'autres circuits, parce que malgré tout ce qu'on répète, on voit encore quand même des conduites à risque. Alors bon, après, les gens peuvent choisir de faire ce qu'ils veulent. C'est comme les gens qui fument, ils savent que c'est dangereux. Mais quand même, quelquefois, on a l'impression qu'il faut y aller par une autre... un autre circuit.
D'où la fête de la musique. Hein.
Voilà.
C'est la porte d'entrée, en tout cas,
exactement.
Pour vous adresser à plus de monde, d'une façon différente, et surtout à la veille de l'été, qui est un moment crucial, justement, pour s'occuper du mélanome.
Oui, effectivement, c'est quand même un peu le moment où tout le monde a envie de se mettre au soleil. Hein. Nous, en général, spécialement quand on habite dans un endroit où il n'y a pas toujours beaucoup de soleil, on n'a qu'une envie quand il fait beau, c'est d'aller dehors se mettre au soleil. Bien sûr, nous, on n'est pas anti-soleil. Hein. Le soleil, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. Il ne faut pas prendre 2 coups de soleil et il faut savoir quand on est à risque pour faire un peu plus attention.
Alors justement, vous êtes à la fois médecin et chercheur, Caroline Robert. Donc vous vous occupez de patients atteints de cancer de la peau. Qu'est-ce que le mélanome, alors plus particulièrement?
Oui, alors il ne faut pas confondre. Dans les cancers de la peau, le mélanome, c'est le plus rare. La plupart des cancers de la peau, ce sont des carcinomes, qui d'ailleurs, eux aussi, sont liés au soleil en grande partie, mais qui sont beaucoup moins graves. En règle générale, on les reconnaît, on les enlève et ça va. Le mélanome... Dans la plupart des cas aussi, on l'enlève, on surveille les gens et ça va. Mais dans environ 20% des cas, c'est lésions donc qui ressemblent à des grains de beauté.
Alors c'est ça, oui. Quand vous dites on l'enlève, c'est le grain de beauté au fond.
Oui, en fait, c'est pas un grain de beauté. Un grain de beauté, c'est un névus pigmentaire. C'est quelque chose qui ressemble à un grain de beauté. C'est pigmenté souvent, mais quand même, ça a une drôle de tête. D'ailleurs, on a un collègue marseillais, le professeur Grob, qui dit que c'est le syndrome du vilain petit canard. Souvent, nous, on regarde les gens de loin pour voir un peu l'allure de leur grain de beauté. Ils se ressemblent souvent un peu les uns les autres. Et puis, il y en a un qui nous paraît un peu bizarre, un peu plus foncé, ou au contraire un peu plus clair, ou avec une forme différente. Celui-là, il va attirer plus notre attention. Mais surtout... C'est pas tellement un aspect statique. Ce qui est important, c'est la lésion pigmentée qui change, qui évolue au cours du temps, qui va s'étendre en taille, en relief, qui va changer de couleur. Ça, c'est quelque chose de suspect. Donc, je disais, dans à peu près 20% des cas, malheureusement, même si c'est tout petit quand on l'enlève, quelquefois ça fait quelques millimètres, ou moins d'un millimètre même d'épaisseur, c'est capable de donner des métastases, c'est-à-dire des cellules qui partent par le sang ou la lymphe, qui vont se loger soit dans les ganglions, sous les bras par exemple, au niveau de l'aine ou ailleurs, ou dans les poumons ou dans le foie. Et là, bon, là c'est une autre affaire. Et jusqu'à présent, je vous disais, pour ces formes métastatiques, donc non opérables parce que trop disséminées, on n'avait pas de solution ou très peu, des traitements qui marchaient quasiment pas. Et là maintenant, depuis 2011, on a commencé avec 2 voies thérapeutiques incroyables qui marchent, c'est-à-dire qui donnent vraiment des augmentations de... Nous, on parle, même si c'est cruel à entendre, on parle d'augmentation de survie. Parce que nos malades sont en danger de mort, en fait, avec ces maladies-là. Et on a des critères qui sont statistiques. On augmente statistiquement la chance de vivre plus longtemps avec ces traitements.
Qui sont des thérapies très ciblées aujourd'hui ?
Alors oui, vous faites bien d'utiliser ce mot-là. Il y a d'une part les thérapies ciblées, parce qu'effectivement, on a reconnu dans à peu près la moitié des mélanomes une anomalie moléculaire bien particulière, qui s'appelle une mutation. Donc l'ADN est muté à un endroit particulier. Mmh. C'est un gène qui s'appelle BRAF. Maintenant, on l'utilise un peu communément. Donc la mutation de BRAF, c'est la moitié des mélanomes. Et on peut utiliser des traitements ciblés sur cette mutation-là, qui ont déjà fait des progrès par rapport à la première génération de thérapies ciblées. Donc on a des effets très efficaces sur la taille des métastases, parfois très rapides. Malheureusement, les patients, souvent, au bout d'un certain nombre de mois, vont récidiver avec ce qu'on appelle des résistances au traitement. Vous savez, les cellules malignes, on ne les appelle pas malignes par hasard, elles trouvent des moyens d'échapper au traitement. Mais c'est déjà un énorme progrès. Et puis l'autre stratégie, on n'appelle pas ça thérapie ciblée, on appelle ça immunothérapie. Mmh. C'est très séduisant dans l'idée, c'est qu'on utilise ses propres armes du système immunitaire pour aller détruire le mélanome. Et ça, c'est vraiment l'explosion thérapeutique.
Oui. Alors avant le traitement, évidemment, il y a la surveillance, il y a la survenue d'abord de ces particularités donc sur la peau. Les enfants en bas âge déjà peuvent présenter précisément des mélanomes ?
Alors c'est excessivement rare chez l'enfant. C'est souvent des maladies génétiques sous-jacentes. En revanche, vous avez raison de parler des enfants parce que même si on ne sait pas exactement comment ça se fait, on sait que les coups de soleil dans l'enfance vont constituer des facteurs de risque pour présenter des mélanomes plus tard à l'âge adulte. On ne sait pas trop, finalement, qu'est-ce qui véhicule cette mémoire dans la peau ? Enfin, quel est le substratum, finalement, biologique de ça ? Mais il y a effectivement une certaine latence. Et puis, on a bien démontré maintenant que les coups de soleil dans l'enfance, dans l'adolescence, allaient prédisposer au mélanome plus tard. Parce que le mélanome, c'est plutôt une maladie de l'adulte, hein, quand même.
Ouais. Donc, le soleil est le premier facteur vraiment à surveiller ?
Alors, le soleil, je dirais que c'est le seul facteur sur lequel on puisse agir. Déjà, ça, c'est important, parce que les facteurs intrinsèques, notre génétique propre, on ne peut pas agir dessus. Alors, la plupart des mélanomes dans nos pays de sujets à peau blanche, ce sont des mélanomes qui sont influencés en partie par le soleil. Il y a aussi des mélanomes en Afrique noire, en Asie, où les gens sont quand même plus mats de peau, sont d'autres types de mélanomes, et c'est moins fréquent. Là où vous avez le plus de mélanomes, c'est en Australie, en Nouvelle-Zélande, parce que vous avez des gens très clairs, du fait des vagues d'immigration, et un soleil de plomb. Et là y a, c'est un vrai problème de santé publique.
Oui. En combien de temps donc ça se développe, précisément, le mélanome ? Ça peut aller extrêmement rapidement ou pas ?
Oui. C'est très variable. Il y a des gens chez qui ça se développe très rapidement. Et puis il y a des gens, au contraire, qui ont un mélanome qui évolue. On voit sur les photos successives, les mariages des enfants, on regarde les photos en arrière et on voit que c'était déjà là il y a plusieurs années. Mais malheureusement, il y a des formes qui évoluent rapidement. Il y a un sous-type de mélanome qui, heureusement, n'est pas le plus fréquent, qui s'appelle le mélanome nodulaire. Et en plus, celui-là, parfois, il n'est pas pigmenté, donc il est plus difficile à diagnostiquer. Avec une petite boule, un petit bouton qui ressemble à un kyste, une piqûre d'insecte, sauf qu'elle est là, elle reste, elle grossit. Et ça, c'est très dangereux, parce que tout de suite, c'est prêt à aller en profondeur si vous voulez donner des métastases.
Donc le soleil, effectivement, il y a des facteurs génétiques aussi qui entrent en jeu. Ils sont peu importants, je crois que c'est 15% à peu près.
Exactement, à peu près dans 15% des cas, quand on interroge nos patients, on retrouve des cas dans la famille. Alors on leur propose de faire une prise de sang pour voir si on trouve une mutation d'un gène de prédisposition. Attention, il ne faut pas confondre. Quand je vous parlais tout à l'heure des mutations de BRAF, ce sont des mutations somatiques qui surviennent dans le mélanome, mais qui ne touchent pas les autres cellules de l'organisme. Là, quand je vous parle de gènes de prédisposition, ce sont des mutations qui sont dans tout le corps et qui vont, à la faveur peut-être d'une autre mutation qui va survenir par le soleil, prédisposer plus facilement à avoir un mélanome. Et là, je vous dis, dans à peu près 15% des cas, on retrouve des cas agrégés dans la famille, on fait une prise de sang, et les gènes dont on sait qu'ils sont à l'origine de prédisposition, on les trouve rarement mutés. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qu'il faut qu'on cherche, qu'on ne connaît pas encore.
Oui. Alors donc, avant l'emballement des cellules cancéreuses que vous décriviez tout à l'heure, on peut donc extraire ces grains de beauté, enfin, même si le terme n'est pas
si,
le bon.
On fait l'excision, voilà.
Avec de la chirurgie, donc c'est comme ça qu'on agit aujourd'hui.
Oui. Alors c'est plus facile que pour les cancers du foie ou du poumon, sur la peau, surtout ça dépend de l'endroit où c'est localisé. Ça veut dire que nous, quand on a un doute, on n'hésite pas quand même éternellement, on enlève. Hein. Et honnêtement, même si on est très expérimenté, il nous arrive d'enlever des grains de beauté qui ne sont pas des mélanomes, mais bon, tant pis, parfois ils sont un peu atypiques. Donc on enlève toute la lésion. On essaye de ne pas faire une biopsie, c'est-à-dire enlever partiellement, parce qu'après ça va gêner si on réenlève la totalité, il va y avoir de la cicatrisation dans, dans la lésion. On enlève tout, mais on ne prend pas des marges très importantes quand on est, tant qu'on n'est pas sûr du diagnostic. Ouais. Et après, notre collègue anatomopathologiste, il va recevoir ça, il va regarder au microscope et il va nous dire c'est un mélanome de tant de millimètres d'épaisseur. Et c'est ça qui est affolant, c'est quelquefois il va nous dire 0,7 mm. Sauf que 0,7 mm, c'est déjà dans le derme, que dans le derme il y a des vaisseaux et qu'il y a potentiellement eu une rencontre entre une cellule de mélanome et un endothélium vasculaire. Et nous, quand on sait que c'est un mélanome, on va prévenir le patient et on va lui dire il va falloir par sécurité reprendre un peu plus large autour. On va enlever par sécurité un peu de peau normale. Donc le patient va se retrouver avec une cicatrice un peu plus longue et on va lui faire un bilan, on va lui expliquer, etc.
Et donc le dépistage, évidemment, hein. Ça, il faut le faire le plus tôt possible, en tout cas quand...
Alors, c'est important de faire le dépistage si on a surtout si on se reconnaît comme personne à risque. Hein, on est tout à fait inégal devant le risque de mélanome. Hein. Quelqu'un qui est roux avec plein de taches de rousseur, qui a pris plein de soleil, qui a des antécédents de mélanome dans sa famille, oui, ça va être quelqu'un qui va devoir aller voir le dermatologue fréquemment. Mais faut savoir reconnaître son risque. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire aux gens. Soyez conscient de votre peau. En ce moment, à Gustave Roussy, on fait une grande campagne. On a mis des grands panneaux. Combien de grains de beauté avez-vous dans le dos? D'abord, je vous le demande peut-être. Vous savez, vous, Mathieu, combien
mais
vous
avez? Je ne les ai pas comptés. Je ne me regarde pas souvent le dos, mais j'en ai quelques-uns.
Dommage.
J'en ai quelques-uns.
Il faudrait que vous le sachiez et il faudrait que vous ayez chez vous une photo de votre dos.
Ouais.
Comme ça, le jour où vous allez chez votre dermatologue et qu'il vous dit celui-là, vous l'avez depuis combien de temps? Vous ne le regardez pas avec des yeux ronds, comme tous mes patients me font. Vous dites celui-là, je sais, regardez, il y a 3 ans, il était là. Et comme c'était exactement le même, on est complètement rassurés.
Bon, je vais faire un selfie du dos alors.
Voilà.
Je penserai à vous en rentrant.
Pour une fois, les selfies, ça peut servir à quelque chose.
Allez, 21 juin, donc c'est important. À l'occasion donc, de cette journée, de cette fête de la musique, ensemble contre le mélanome.fr. C'est le site internet pour évidemment vous aider. Stéphane Paoli sera également en direct. De Gustave Roussy dimanche pour poursuivre justement cette journée autour de cette question. Merci beaucoup Caroline Robert d'être venue nous en parler aujourd'hui dans le club de la tête au carré. Merci à vous.
Merci.
Et du soufre dans le noyau terrestre, ce sera le prochain sujet de notre club dans un instant après The Toys et Fire. Bon après-midi.
Feel like I lost it all.
Toys, Fire à l'instant dans notre club des Têtes au Carré avec mes invités Frédéric Moynier, Fatoumata Kébé, Benoît Delplanque et Frédéric Moynier. Une découverte grâce à vous et à votre équipe dans le noyau terrestre de la Terre. Vous êtes professeur et responsable de la chaire de cosmochimie à l'Université Paris Diderot, puis vous êtes chercheur à l'Institut de physique du globe de Paris. On va donc parler de l'espace dans un instant. On le disait, paradoxalement, c'est plus facile d'envoyer des robots très très loin que d'aller au centre de la Terre. Le noyau donc est à 3000 km, hein, c'est ça ?
2900 km, ouais. Pour être exact.
Le plus loin qu'on ait pu creuser donc aujourd'hui, c'est quoi ?
C'est une dizaine de kilomètres.
Seulement, hein.
Seulement, oui.
Ouais. À quel type de problème on se heurte alors quand on va profondément dans le noyau ? Enfin, déjà dans la surface.
Profondément dans la croûte. Dans la croûte, ouais. On est surtout limité par l'augmentation de température.
Ouais.
Donc, qui entraîne des problèmes de forage, d'outillage, etc. Donc là, on doit être, monté à quelques centaines de degrés.
Déjà à 10 km ?
10 km, ouais. 300 degrés.
Et ensuite, la température du noyau ?
C'est 5000 degrés à peu près.
Ouais. Donc avec vos collègues, vous avez apporté pour la première fois la preuve de la présence du soufre dans le noyau de la Terre, ce qui fait l'objet d'une publication il y a deux jours dans la revue Geochemical Perspective Letters. Sur quoi vous travaillez exactement dans votre labo ?
Dans notre labo, on travaille sur la composition chimique, plus précisément isotopique.
Oui, qu'est-ce que c'est ?
Les isotopes, donc, ce sont chaque élément ou la plupart des éléments peuvent se retrouver avec différentes masses.
Mmh.
Et donc, ce sont ces isotopes qui sont quasiment des jumeaux, si vous voulez, chimiques, qu'on étudie. On étudie leur distribution entre les différents matériaux qu'on peut retrouver sur Terre ou dans le système solaire, c'est-à-dire oui. Les météorites ou les échantillons ramenés par les missions d'échantillonnage, comme les missions Apollo, par exemple, oui. Pour les échantillons lunaires.
Oui. Vous avez des échantillons de la Lune dans votre labo, c'est ça ?
On en a. D'ailleurs, aujourd'hui, après l'émission, je retourne dans le laboratoire. On est en train de continuer ses travaux avec des collègues américains sur des échantillons Apollo lunaires.
Ouais. Combien de kilos ont été rapportés des missions Apollo à peu près ?
380 kilos, donc à peu près 400.
Ouais. Ce sont des trésors nationaux. Hein. Enfin, vraiment, il faut se rendre compte que ce sont des choses qui sont vraiment protégées.
Ben, on n'est pas prêt, à mon avis, d'en avoir d'autres. Enfin, en tout cas, pas d'ici quelques années. Donc oui, c'est, on peut dire, c'est des trésors nationaux américains. Ouais.
Et vous avez quelques grammes dans votre labo, hein. Vous bénéficiez quand même de cette chance. Hein.
On en a toujours quelques grammes, pas pour longtemps, étant donné que toutes nos manipulations sont destructives, donc on fait disparaître les échantillons.
Frédéric Moynier, comment justement est-ce que vous avez pu déterminer la composition du noyau de la Terre, donc la découverte de ce soufre, puisqu'on ne peut pas y aller vraiment, comment on procède pour avoir ces échantillons et en déduire donc la présence de cette chimie ?
Alors, notre approche est assez simple. Alors, nous, on fait tout, vous voyez, sans sortir du laboratoire.
Hein. Mais c'est pratique, oui.
C'est assez pratique. On arrive à avoir ces météorites qui sont des échantillons qui représentent la Terre. Donc, la Terre est une planète qu'on appelle différenciée, c'est-à-dire qu'à un moment de son histoire, la Terre a fondu. Et en fondant, les éléments métalliques plus lourds ont migré vers le centre de la Terre pour former le noyau.
Ouais. Quand vous dites qu'elle a fondu, elle a perdu de volume, concrètement ou pas ?
Non, elle a simplement fondu sans perte de volume. Juste
De l'intérieur
Elle n'a pas subi un régime, si c'est, c'est ça. Non, elle a simplement été, elle a chauffé, donc elle s'est retrouvée à l'état liquide.
Mm-hmm.
Et donc, on a eu une séparation en fonction de la densité, donc les métaux au centre et les roches autour, ce qu'on appelle le manteau.
Ouais.
Et donc, comme on ne peut pas aller plus loin que 10 km, impossible de savoir ce qui se passe directement 10 km en dessous de la surface. Donc là, c'est l'approche qu'on suit dans notre laboratoire, c'est de comparer les roches qu'on peut avoir de cette dizaine de kilomètres, donc des roches du manteau, aux météorites qui représenteraient la Terre avant sa différenciation. Parce qu'on a cette chance que les résidus de la formation de la Terre, qui eux n'ont pas fondu, ont été stockés dans cette ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter.
Mmh.
Et avec ces chutes de météorites, ces astéroïdes qui vont croiser la Terre. Certains vont se retrouver sur Terre, donc qui peuvent créer donc des cataclysmes et des drames comme l'extinction des dinosaures, par exemple. Mais aussi nous laisser des traces, donc si vous voulez, des premières roches de la Terre qu'on ne peut plus retrouver à l'heure actuelle à cause de cette fusion.
Donc vous avez l'étude des météorites, hein, qui sont très importantes, et puis l'étude des laves terrestres aussi. Hein.
Voilà. Donc on fait, pour vraiment simplifier, on considère que la chimie du noyau, c'est la chimie de ces météorites moins la chimie des laves terrestres qu'on peut retrouver. On a via les volcans, on arrive à avoir des roches qui viennent de plus profond que 10 km. Donc, on arrive à avoir une bonne estimation de la composition du manteau terrestre.
Ouais. Donc, dans votre laboratoire, tranquillement, avec vos collègues, vous avez pu reconstituer donc la composition chimique de la Terre. Et donc, la découverte du soufre, comment elle est arrivée finalement ?
Elle est arrivée, pour s'intéresser au soufre, on s'est intéressé à un autre élément, bon, qui est le cuivre, qui est un élément qui a des affinités chimiques avec le soufre. Et le soufre, c'est un élément qui est assez compliqué à étudier directement du fait de ça, du fait qu'il est très volatile, donc il est très facile à évaporer. Donc quand on va, la Terre a pu perdre ou même avoir un rajout de soufre après la formation de ce noyau terrestre. Alors que le cuivre, lui, qui va avoir les mêmes propriétés chimiques, est beaucoup moins volatile. Et donc, en étudiant le cuivre, on peut en déduire quasiment directement les compositions en soufre. Donc, en étudiant la chimie du cuivre dans les météorites et en la comparant à la chimie du cuivre dans le manteau terrestre, ceci à travers des mesures de, normalement de roche.
Oui. Parce que ça paraît très simple en le lisant.
Ça paraît très simple.
On se dit, mais pourquoi ils ne l'ont pas découvert plus tôt?
Voilà. Il y a la raison principale, c'est une raison technologique, c'est-à-dire que les mesures qu'on fait de chimie, donc qui sont ces mesures de chimie isotopique, encore une fois, sont des mesures très fines et donc on est capable de les faire que depuis une dizaine d'années, voire un peu moins. Et ensuite, il faut avoir un bon échantillonnage des roches terrestres parce que il y a déjà une grosse partie du travail et déduire quelle est la composition du manteau. C'est pas aussi, on peut pas juste mesurer une roche sortie d'un volcan et en déduire la composition du manteau. Il y a un peu plus de travail en amont là-dessus. Et puis ensuite, mesurer les météorites pour lesquelles on a aussi une grande diversité.
C'est ça. Qu'est-ce que ça signifie au fond la découverte de cet élément supplémentaire dans le noyau de la Terre, donc le soufre en particulier? Qu'est-ce que ça apprend?
Donc le noyau est composé principalement de fer, donc à au moins 90%, ou à peu près 90%. Et la grande question, c'est quels sont que représentent les 10 autres pourcents du noyau terrestre. Donc, est-ce que ce sont des éléments plus légers? Donc, les questions, c'est est-ce qu'on peut mettre du soufre, de l'hydrogène, de l'oxygène, du carbone, par exemple, qui sont des questions fondamentales sur la composition chimique de la Terre, déjà. Donc, pour savoir comment la Terre s'est formée. Dans quelles conditions la Terre se serait formée. Et ensuite, est-ce que le noyau, en fonction des éléments qu'on va retrouver dans le noyau, on aura des conséquences sur les processus physiques qui se déroulent dans le noyau, comme par exemple du mouvement de matière, qui est à l'origine du champ magnétique terrestre. Donc l'idée, c'est comprendre, essayer de comprendre déjà l'origine, puis le maintien de ce champ magnétique terrestre, qui est quelque chose d'assez... unique et important sur Terre, en particulier pour la vie.
Ouais. Et l'eau sur Terre aussi, ça peut participer à cette découverte, à des analyses plus poussées?
Une des grandes questions qu'on essaie de résoudre dans notre laboratoire, c'est l'origine de l'eau terrestre. Donc, est-ce que l'eau est arrivée dès les premiers instants sur Terre, ou est-ce qu'on a formé ce noyau, ce manteau, et puis est-ce que l'eau a été amenée plus tard par des comètes, par exemple? Et le noyau est un endroit dans lequel on pourrait stocker de l'hydrogène, c'est-à-dire l'eau, c'est H2O, donc de l'eau. Et donc, en essayant, d'obtenir la composition du noyau, on peut obtenir la composition de l'eau sur Terre. Et...
Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à vous, on a exactement tous les ingrédients du noyau terrestre, ou il en manque encore quelques-uns?
Il en manque encore quelques-uns.
Bon, donc il y a encore du boulot.
J'ai encore un peu de travail.
Bon, ben c'est bien. Donc il y aura certainement d'autres publications à venir. Fatoumata Kebe, on va quitter la Terre avec vous dans un instant. C'est votre grande passion.
Oui.
On va parler de cette opération et de cette exposition Space Girls qui a commencé hier. Et je sais que votre rêve, c'est justement peut-être un jour d'aller bien au-delà de notre petite planète bleue.
Chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé, comme s'il fallait tout oublier. À chaque fois que tout s'effondre, comme s'il fallait recommencer. Et surtout ne jamais confondre son présent avec son passé. Et puis courir jusqu'à la tombe, en faisant semblant qu'on est pressé. On slalom entre les bombes, celle qu'on a soi-même placée, celle des autres, celle du monde, qui finiront par exploser. Ça n'est qu'une question de seconde, et donc dans quelle on est placé, hein? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé, hein? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé, comme s'il fallait s'immuniser, pour un nouveau pouvoir se fondre, dans la masse des civilisés, dans laquelle les cons abondent, les cons aigris, les cons grisés, les cons vernis, les cons frisés, les cons groggy, les cons rasés, et un con à chaque seconde. Une nouvelle variété qu'il nous faudrait apprivoiser. Hein. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé. Hein. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé.
Zoufri Maracas, chaîne de vie sur France Inter.
La tête au carré.
On est arrivé.
Le club.
Ah oui, déjà.
Avec Mathieu Vidard.
On n'a pas vu le temps passer, dis donc.
Sur France Inter.
La suite de notre club est depuis hier à Paris. Vous pouvez découvrir des photos de trois générations de femmes autour de l'espace. Expo qui s'appelle Space Girls et Space Women. Et elle est présente donc depuis hier avec 18 reportages inédits au Musée des Arts et Métiers. Et puis sur les grilles du Jardin de l'Observatoire jusqu'au 1er novembre prochain. Voici la voix de quelques-unes d'ailleurs de ces femmes.
Ma passion pour l'espace et l'astronomie en général a commencé très très tôt, à l'âge de 8 ou 10 ans, parce que l'idée que d'autres mondes puissent exister dans l'univers me fascinait au plus haut point. Cette passion a grandi au cours des années, et au collège, j'ai commencé à étudier l'astronomie. Et j'ai aussi acheté un petit télescope pour observer la structure de l'univers, les galaxies, les nébuleuses, la Lune, les taches solaires, et ainsi de suite.
J'ai toujours été fascinée par le ciel, j'aime beaucoup regarder les étoiles, par les avions aussi. Il y a un avion qui passe, il faut que je regarde. Et après plusieurs visites d'observatoires, des nuits des étoiles par exemple, et une visite aussi de la Cité de l'Espace à Toulouse et d'Airbus, ça m'a vraiment décidé à me diriger vers le domaine aéronautique et spatial.
Je devais avoir 7 ou 8 ans lorsque la mission Apollo s'est posée sur la Lune pour la première fois. C'était vraiment fascinant. Et l'autre raison pour laquelle j'ai toujours voulu faire carrière dans le domaine de l'espace tient probablement à mon nom, Anuradha, qui signifie étoile.
Voilà, ces voix de femmes que vous pouvez d'ailleurs découvrir via une application hein, parallèlement à l'exposition qui pourrait vous permettre de créer votre propre profil de Space Girl et tester vos connaissances spatiales. Fatouma Takebe, vous êtes doctorante en astronomie à Pierre et Marie Curie. Vous préparez une thèse d'astronomie à l'Observatoire de Paris. Vous travaillez donc, on le disait, hein, sur les débris spatiaux, sur les vestiges d'activités humaines dans l'espace. Et puis Benoît Delplanque, vous êtes responsable de l'exposition, directeur de production à l'agence SIPA. Fatoumata, comment vous avez eu envie un jour d'aller dans l'espace, en tout cas de travailler autour de ce domaine?
Alors moi, c'est né à partir d'images, d'étoiles et de planètes que j'ai trouvées dans une encyclopédie. Et juste ces images, j'ai trouvé tellement belles que je me suis dit, plus tard, je travaillerai dans les étoiles.
Vous aviez quel âge à ce moment-là?
J'étais en primaire. Après, là, je ne sais plus exactement.
Ouais. Ça ne vous a pas quitté?
Ça ne m'a pas quitté.
Ouais.
Il y a eu des moments de doute avec les études, etc., mais ça ne m'a pas quitté.
Vos parents vous ont encouragé justement à aller vers cette voie-là?
Ils étaient plutôt sceptiques parce que pour nous c'était pas, enfin l'astronomie, les sciences, c'était pas quelque chose de commun chez nous.
Ouais.
Mais aujourd'hui oui, ils me soutiennent à fond.
Ouais. Benoît Delplanque, pourquoi cette exposition? C'est quoi l'origine du projet alors exactement?
Mais à l'origine du projet, c'était justement de faire parler ces femmes qui ont une passion pour l'espace, de voir d'où venait cette vocation et justement en général de retrouver ces rêves d'enfants qui les animent. Et de montrer justement un visage plus humain de l'espace, de montrer qu'il y avait derrière tous ces programmes, toutes ces belles innovations que l'on voit très souvent, les départs d'Ariane, Philae, etc. Il y avait des femmes qui travaillaient, des hommes et des femmes qui travaillaient, et donc des belles histoires à raconter. Et donc on a été autour du monde chercher ces histoires, chercher ces femmes, et leur demander pourquoi elles s'étaient engagées dans l'espace.
Donc il y a cette exposition, on peut voir ces portraits photographiques et puis également donc cette application pour entendre la voix aussi de ces femmes.
Voilà, exactement. On a fait un travail photo qui est exposé aux Arts et Métiers à l'Observatoire et un travail d'interview et de multimédia qui est sur cette application mobile et pour tablette et également sur le site web spacewoman.org.
Fatoumata, si je vous dis Valentina Tereshkova, ce nom vous dit quelque chose?
La première femme dans l'espace.
Oui.
Oui.
Il y a cet anniversaire, le 50e anniversaire justement qui a été fêté. Elle est toujours en vie d'ailleurs, hein, Valentina Tereshkova. Et c'est la seule à avoir effectué un voyage en solitaire dans l'espace quand même.
Oui, c'est un exploit. Et c'est vrai que nous, ce qui nous a inspiré beaucoup aussi, c'était le départ dans l'espace et la mission de Samantha Cristoforetti, cette astronaute italienne de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, qui vient juste de rentrer. Mmh. Et l'actualité nous a poussé encore plus à faire cette exposition. Il y a actuellement, je crois, plus d'une cinquantaine de femmes qui sont parties dans l'espace contre plus de 500 hommes. Et
peut-être bientôt Fatoumata.
Et peut-être bientôt Fatoumata.
Parce qu'elle a très envie. C'est vrai.
Je lance un appel aux personnes qui ont des compétences pour m'aider à construire une navette.
Vous les connaissez en tout cas ces personnes, au moins les astronautes. Vous étiez encore avec l'un d'eux il n'y a pas très longtemps.
Oui, je les connais. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage que Valentina Tereshkova, par exemple, on ne la voit pas souvent dans les médias.
Vrai.
Parce que c'est quand même un modèle.
C'est vrai, absolument. Vous étiez avec Thomas Pesquet il n'y a pas très longtemps ?
Oui, ce matin, au Salon du Bourget.
Qui est le français, le prochain à aller dans l'espace pour 2016, a priori.
2016, oui, normalement.
Ouais. Vous lui posez beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous racontez ensemble ?
J'ai pas eu le temps de lui poser des questions, mais je me suis nourrie de documentaires sur l'entraînement des astronautes et surtout sur les compétences humaines qu'on leur demande, parce que c'est pas facile. D'aller là-haut.
Vous êtes prête à faire justement ce type d'entraînement qui sont très contraignants, très difficiles. On passe les astronautes dans des centrifugeuses, par exemple.
Ah, je suis prête, y a pas de problème. D'abord, j'y vais et après, si je vois que c'est vraiment difficile, j'arrêterai, mais c'est clair que j'essaierai quoi qu'il arrive.
Qu'est-ce qui vous fait tant rêver alors dans le voyage d'abord dans l'espace?
Le voyage, c'est comme elle disait en fait. C'est vrai que le fait de se dire qu'il y a des planètes autres que la nôtre où peut-être on pourrait habiter, enfin... Tout ce qui nous entoure, c'est tellement beau. Et quand on voit les images, on se dit, mais juste aller faire un petit tour.
Un petit tour,
Voilà, et revenir.
Ouais, et revenir. Alors c'est ça, j'allais vous poser la question du voyage vers Mars. Où pour l'instant, il n'y a pas de retour, en tout cas pour ceux qui promettent d'y aller. Vous seriez partante, vous, pour faire un voyage de 3 ans vers Mars ou pas?
Non, franchement, pour moi, enfin, la compétence humaine, c'est de faire un voyage aller-retour vers Mars.
Ouais.
Mais un voyage en retour... c'est un peu un suicide.
Frédéric Monnier.
Oui, non, moi non plus, sans retour.
Vous préférez rester en labo avec vos roches?
Je suis bien dans mon labo.
Tranquillement installé pour étudier. Les échantillons martiens d'ailleurs, on pourra en rapporter bientôt ou pas?
J'espère. On en a déjà via les météorites, mais le retour d'échantillons martiens, oui, ce sera pour dans une prochaine dizaine d'années.
Parlez-nous de vos travaux, Fatoumata. Vous travaillez sur les débris spatiaux, mais pourquoi vous êtes spécialisé dans ce domaine exactement?
En fait, avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais aussi passionnée d'environnement.
Vous êtes écolo de l'espace?
Voilà. En fait, j'étais écolo sur Terre et en fait, j'ai vu que même dans l'espace, je pouvais le faire.
C'est
vrai. Que l'homme est capable de polluer partout où il passe.
C'est vrai.
Et donc, en fait, il a laissé les traces de son passage, donc des morceaux de fusées, de vieux satellites qui sont à la retraite. Et aujourd'hui, il y en a des millions qui tournent autour de la Terre. Et non seulement ils peuvent retomber sur nos têtes, mais aussi ils peuvent détruire des satellites dont on dépend tous les jours, comme les télécommunications, GPS et Internet.
Vous travaillez sur les solutions pour nettoyer l'espace?
Entre autres, mais avant tout, je travaille sur l'étude des trajectoires, des débris en fait, générés par une collision ou explosion dans l'espace.
Ah oui, donc là on est dans la modélisation, dans les mathématiques?
Exactement, dans les équations de la mécanique céleste.
Ouais.
Voilà.
Il y a des règles, justement, des lois qui régissent ces mouvements des débris spatiaux?
Oui, il y a des lois, c'est un peu comme pour les planètes. Bon, ils subissent des perturbations qui viennent par exemple de la Lune ou même du Soleil.
Mmh. Et donc ça, c'est votre travail quotidien aujourd'hui?
Travail quotidien, oui, actuellement.
Ouais. Mais parallèlement, il y a quand même ce rêve de concrètement partir aussi.
Je le garde en tête, quoi qu'il arrive.
Vous pourriez postuler là, franchement, s'il y avait une annonce, comme Claude Ignoret d'ailleurs à l'époque, dans un couloir de l'hôpital où elle travaillait, elle voit une annonce, elle postule et elle part deux fois.
Oui, et bien si l'Agence spatiale européenne m'entend, alors, je suis prête à postuler au prochain appel à candidature pour astronaute.
Bon, c'est bien, vous profitez du micro pour le faire.
Parce qu'à l'époque, en fait, où ils avaient lancé l'appel, où Thomas Pesquet a réussi, j'étais trop jeune et j'avais pas de diplôme.
Mais maintenant, ça y est.
Ça y est, je suis prête.
Vous êtes prête, dit Fatoumata. C'est important, Benoît Delplanque, aussi d'entendre ces voix-là. C'est vrai que c'est une autre génération. Là, c'est celle qui arrive.
Oui, c'est les étudiantes et toutes celles qui arrivent pour les programmes futurs. Et c'est particulièrement important. Nous, on a été donc même dans les générations avant, puisqu'on a été dans des camps d'activité spatiale, voir comment les petites filles de 12 ans se passionnaient aussi pour l'espace. Voilà. Et puis, on a été aussi en Afrique, au Kenya, voir une étudiante qui, en Afrique, mène un combat aussi, et une physicienne, pour développer un pôle scientifique là-bas.
Fatoumata, pour terminer, un mot sur votre association, parce que vous faites un boulot formidable avec des jeunes de la banlieue parisienne.
Oui, en fait, c'est l'association Éphéméride, en fait, qui a pour but d'enseigner l'astronomie dans des quartiers dits prioritaires. Parce qu'en général, quand on dit astronomie, pour les petits jeunes, c'est quelque chose qui est élitiste, hors de portée. Et en leur enseignant l'astronomie, en fait, ça démystifie la chose. Et surtout, ils prennent confiance en eux parce que, voilà, d'un coup, enfin, ils arrivent à monter un télescope, à pointer vers une planète, à reconnaître une étoile dans le ciel. Et ça leur permet de s'ouvrir des champs de possibilités, quoi, de se dire, en fait, ouais, je suis capable d'y arriver.
Et vous donnez donc ces cours d'astronomie et de prise de confiance en soi, justement, à ces élèves, et là, d'établissement donc, en zone sensible, et puis vous les emmenez la nuit voir les étoiles, même à Paris, hein, avec la lumière, on arrive quand même à voir un petit bout de ciel. Hein.
Comme quoi.
Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois, d'être passés dans le club. Space Girls, donc, c'est en ce moment, exposition, hein, au Musée des Arts et Métiers, et...
Et sur le gris de l'Observatoire, du Jardin de l'Observatoire à Paris.
Et c'est jusqu'au mois de novembre. Merci beaucoup à tous.